Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest à votre rendez-vous dominical entre 8h30 et 9h. Tendance Confidence aujourd'hui, les confidences de Thomas Geoffrey, qui connaît bien la Normandie pour venir en vacances de temps en temps dans le Nord Cotentin. Merci de vous présenter en quelques mots aux auditeurs de Tendance Ouest ce dimanche matin.
Je vais dire d'abord que je suis marié, je suis père de 3 enfants avec mon épouse, que j'ai un parcours de financier qui se pose des questions. Voilà, un parcours qui a fait des fusions acquisitions, de l'investissement, du conseil et qui se pose pas mal de questions sur le sens de l'économie.
Alors, est-ce que économie, éthique ou morale, ça fait bon ménage ?
À la base, oui. Quand on reprend l'étymologie des mots, on s'aperçoit que c'est assez cohérent. Le mot métier, qui est quand même au cœur de l'économie, quand on fait son métier, ça vient du latin ministerium, ça veut dire service. Quand on fait son métier, on rend service aux autres. Donc, normalement, économie et éthique vont ensemble. Après, on a tous nos biais, nos difficultés, nos faiblesses.
Alors, nous entendons parfois des personnes dire qu'il règne un bon esprit d'équipe au sein de leur entreprise. C'est ce que vous vivez aussi au sein de votre métier ?
Là encore, moi j'aime bien reprendre l'étymologie. En anglais, le mot entreprise, il y a deux mots. Il y a un mot qui s'appelle corporate et il y a un mot qui dit compagnie. Compagnie, c'est la même étymologie en français que le mot compagnon. Corporate, ça peut ressembler à une phrase, alors je vais tomber un peu dans la spiritualité, certains ne connaissent pas, une phrase de Saint Paul qui dit « vous ne ferez qu'un seul corps ». Et donc une entreprise, c'est des gens qui partagent le pain ensemble pour ne former qu'un seul corps. Et donc ils font compagnie, doivent être ensemble dans un but commun et faire compagnie. C'est peut-être là où il y a la faiblesse du monde économique aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à faire compagnie, on a du mal à avoir une vision commune pour quelque chose de bien, une vision commune pour le bien commun, et le faire ensemble en se respectant les uns les autres et surtout en respectant même les plus fragiles à l'intérieur de nos propres organisations, puisqu'on a tous nos propres charismes, même si on a nos faiblesses. J'aime beaucoup les moines, mais Saint Basile, un moine d'Orient, qui disait « le charisme de chacun est le bien commun de l'ensemble ». C'est-à-dire qu'on a tous nos propres petits charismes. Et nos propres petits charismes ne sont pas que des charismes d'intelligence ou de technicité. On peut avoir un charisme d'humour, on peut avoir un charisme de pleurs. On a parfois besoin dans nos entreprises ou dans nos organisations, quelles qu'elles soient, ou dans notre famille, d'avoir des gens qui pleurent avec nous quand on est triste, on a besoin d'avoir des gens qui rient avec nous, on a besoin des gens qui nous pardonnent, on a besoin d'avoir des gens costauds, on a d'avoir des gens courageux, même un peu trop courageux pour nous entraîner quand on est plus timide. Donc on a besoin d'avoir des charismes très variés et parfois on les oublie dans les entreprises. Quand quelqu'un fait mal une action ou qu'il est un peu plus faible ou un peu moins technique ou un peu moins brillant, il est mis de côté. Mais s'il fait rire toute l'équipe, il est utile.
Alors comment tenir en même temps compte du produit que fabrique l'entreprise et en même temps la dignité de la personne qui fabrique ce produit ?
Quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est d'ailleurs ça vient du monde bénédictin là encore, c'est que je pense que toute organisation a 3 vocations. La première vocation, c'est de servir les hommes. Donc une entreprise, comme n'importe quelle organisation, doit se demander à quoi elle sert. La deuxième, c'est qu'elle doit permettre aux gens de s'émerveiller, elle doit faire des choses belles. Même un électricien, quand il va au bout de son travail, il est beaucoup plus heureux que quand on l'interrompt 2 jours avant en lui disant « c'est bon, t'as fait le truc, les finitions, on s'en fiche, passe au chantier d'après ». Quand il va au bout du travail, il a l'impression d'avoir quelque chose de beau. Dans l'informatique, ça peut paraître étonnant, mais on parle beaucoup de code aujourd'hui, des gens qui font du code informatique, ils peuvent trouver leur code beau. Et un code beau, c'est un code qui est simple et un code qui se partage. Une équation belle, c'est une équation qui peut permettre d'en faire d'autres et qui peut permettre à d'autres mathématiciens de rebondir sur une équation. Donc il y a une notion de partage. Donc dans ce qu'on fait, il faut servir les hommes. Et enfin, je crois qu'on doit aider les gens à grandir, à s'élever spirituellement, quelle que soit notre foi. Et pour s'élever, il faut leur donner un temps de famille, un temps de repos, un temps de silence. Il faut leur permettre de grandir. Un grand professeur d'une grande université américaine qui s'appelle Harvard disait ceci, « Moi, quand je serai devant Dieu, et il est devant Dieu depuis un an d'ailleurs, quand je serai devant Dieu, Dieu me dira pas « Waouh, t'as été un grand professeur », il dira « Mais as-tu aidé les gens à devenir meilleurs ?» Donc il faut aider les autres à devenir meilleurs, même nos chefs d'ailleurs, les aider à devenir meilleurs, les respecter. Après s'y tenir, ça veut dire souvent relire son histoire. Et revoir dans son histoire les moments de grâce. Pas revoir que les échecs, ou pas revoir que les choses qui nous font plaisir ou qui satisfont nos désirs, le moment où on a gagné un contrat, le moment où on a fait ci ou ça, mais revoir ces petits moments de grâce où on se dit, là, j'ai fait quelque chose de beau et de bien. C'est intéressant de relire son histoire pour comme ça.
Par rapport à ce que vous dites à l'instant, Thomas Geoffrey, que vous inspire cet adage, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité.
À la fois j'aime bien et à la fois je trouve ça dangereux. C'est dangereux de croire que sa vie va être un rêve. Le travail peut être difficile, la vie peut être difficile, et dans cette difficulté, on peut trouver des moments de grâce. Je trouve que ça relègue un peu toutes les personnes qui vivent des difficultés et qui se disent « mais moi, je rêve, et je fais pas de ma vie un rêve ». Le rêve de ta vie, c'est de trouver des petits moments où on a eu cette grâce de faire quelque chose de vrai, de beau, de bien. Et on a tous ces petits moments-là, même si notre vie n'est pas le rêve qu'on avait quand on avait 18 ans. On est là où on est, on n'y est pas par hasard, on y est peut-être parce qu'on a une vocation là où on est, qui peut être une petite vocation, mais qui est une belle vocation.
Est-ce que pour vous c'est identique entre réussir sa vie et réussir dans la vie ?
En réalité, ça devrait être similaire, réussir sa vie et réussir dans la vie, puisque réussir sa vie, c'est réussir dans le monde dans lequel on est, donc réussir dans la vie qui nous entoure, transmettre mon succès financier ou mon succès professionnel n'a d'intérêt que s'il œuvre pour le bien des hommes qui m'entourent, des autres, des employés, des clients, des fournisseurs, des gens que je croise dans la rue, de mes cousins, de ma famille. Donc réussir sa vie et réussir dans la vie devrait être la même chose. C'est-à-dire, moi, je pars du principe que n'importe quelle entreprise doit faire quelque chose de bien. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant le métier, c'est rendre service aux autres. La vocation d'une entreprise, qui est une vocation, elle doit faire du profit pour pouvoir investir, pour pouvoir créer, pour pouvoir bâtir le monde. On a besoin de profit pour bâtir le monde, on a besoin de profit pour recruter, on a besoin de profit pour investir dans des machines, on a besoin de profit pour prendre des risques en recherche et développement. Mais malgré tout, si on prend des risques en recherche et développement, si on recrute des hommes et des femmes, et si on investit, c'est pour créer quelque chose qui répond aux besoins du monde. Donc, et ça, n'importe quelle boîte doit le faire, qu'elle soit solidaire ou pas solidaire, ou qu'elle ait un label ou qu'elle n'ait pas de label.
Alors qu'elle n'ait pas de label, ou peut-être celui de l'émerveillement.
Exactement, nous émerveiller. Je pense que, en fait, je dis l'entreprise, on pourrait dire n'importe quel type d'organisation, n'importe quelle association. Nous devons collectivement œuvrer à rendre chacun meilleur. Nous devons collectivement œuvrer à permettre à chacun d'aller au bout de sa vocation, à être meilleur, à aimer plus, à être plus joyeux, à trouver une sorte de bonheur qui se partage. Et donc, on doit aider les gens à être meilleurs. Je redis ce que je disais tout à l'heure, parce que je trouve que c'est une belle citation de ce chef d'entreprise qui s'appelle Jason Fried, qui disait « L'entreprise n'est pas une grande famille, elle se soucie des familles. » C'est une manière de rendre les gens meilleurs. Comment, moi, en tant que... uniquement que chef d'entreprise, en tant que collègue, je peux aider la personne du bureau d'à côté à être meilleure. Comment je peux l'écouter, comment je peux la faire grandir. C'est important.
Et Thomas Geoffrey, vous êtes l'invité de Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h. L'invité d'aujourd'hui est Thomas Geoffrey. Avec vous, nous parlons d'économie puisque c'est aussi votre travail d'être financier. Nous avons parlé avec vous en première partie d'émission si ça faisait bon ménage entre économie, éthique et morale. Que retenez-vous de cette expérience que nous traversons depuis plus d'un an avec cette pandémie de la Covid-19 et le télétravail?
La période que nous vivons, la Covid, ou le Covid, quelle que soit la manière dont on l'exprime, nous fait comprendre que finalement, on a besoin les uns des autres. Pour beaucoup d'entre nous, on est derrière notre ordinateur en télétravail. D'ailleurs, on nous demande de rester derrière notre ordinateur en télétravail. Et on remarque que tout seul, derrière notre ordinateur en télétravail, il nous manque quelque chose. Et il nous manque quoi ? Il nous manque les autres, les relations humaines.
Le présentiel.
Le présentiel. On est des êtres de chair. On est corps au sens chair du terme, charnel du terme. Et donc on a besoin des autres. Et je pense qu'on s'en rend compte. Donc ça, c'est mon premier point. Effectivement, on est dans une société plus individualiste. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On est dans des boucles de gens qui pensent comme nous, sans nous soucier vraiment de la vie des autres. En fait, on parle plus qu'on écoute sur les réseaux. À mon avis, c'est une tendance humaine d'ailleurs de long terme. Je ne suis pas sûr que ce soit lié à la période actuelle. Mais en vrai, on a besoin des autres. Et d'ailleurs, l'amour naît du besoin de l'autre. Si on ne ressent pas le besoin de l'autre, on a du mal à aimer. Donc c'est reconnaître nos fragilités, les fragilités des autres, et savoir qu'on a besoin des autres pour grandir, du collectif. En fait, on s'en rend vite compte, ça. On a une petite tendance à l'orgueil, on a une tendance à l'individualisme, on préfère privilégier notre propre bonheur que le bonheur des autres. Mais quand on expérimente le fait qu'avec les autres, les relations humaines qu'on noue avec les autres, les charismes des autres, qu'on arrive à faire quelque chose de plus beau et de plus grand, après on ne le quitte plus.
Alors que la dimension familiale demeure très importante aujourd'hui.
Oui, c'est d'ailleurs un paradoxe. Hein. Il y avait d'ailleurs des études une étude qui m'avait beaucoup frappé, on demandait à des jeunes, 15-18 ans, on leur demandait quel était le moment préféré de leur semaine. Est-ce que c'était quand ils étaient au cinéma avec des potes, quand ils étaient en soirée, quand ils étaient à l'école. Et en fait, ce qui ressortait en premier, c'était que leur moment préféré, bizarrement, c'était le dîner du dimanche soir en famille. C'est étonnant. On a besoin des autres, on a besoin de cet amour collectif.
M, prix et travail, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Salvator en 2021. Thomas Geoffrey, vous en êtes l'auteur. Vous avez mis l'ordre de ces trois mots. C'est vous qui avez choisi les mots ou c'est votre éditeur?
Non, c'est moi. C'est moi. Prix et travail, c'est pas écrit dans la règle de Saint-Benoît, mais les bénédictins ont dit souvent qu'une de leurs devises, c'est prix et travail, ora et labora. Et j'ai rajouté M avant, parce que ça me semble très important de rappeler, même s'il est finalement... compris dans la prière pour les bénédictins, mais de le rappeler en amont, de dire vraiment, oui, aime, c'est important, aime et fais, et de ce que tu vas faire, bah, prie pour le nourrir, et travaille, c'est l'action. La prière, finalement, est entourée par l'amour et l'action.
Vous êtes sensible, donc, à l'entreprise, nous l'avons compris, à la culture contemporaine, à la vie familiale, à la spiritualité bénédictine, et puis également à la doctrine sociale de l'Église. Mais que vient faire l'Église ? En parlant de doctrine sociale, est-ce que c'est bien son domaine?
C'est marrant d'ailleurs, parce qu'avec mon épouse, on s'occupe aussi de préparation au mariage, et on se demande, est-ce que vient faire l'Église dans notre vie sexuelle? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre vie professionnelle? La doctrine sociale de l'Église, il y a 2000 ans de pensée. Il faut quand même croire qu'il y a des gens qui ont réfléchi avant nous. On ne réinvente pas la poudre tous les ans. Et donc depuis 2000 ans, ou 6000 ans si on prend la pensée juive, de personnes qui ont réfléchi avant nous, qui n'ont pas dit que des bêtises, on réunit ça, on essaye de prendre le meilleur de ce qu'ils racontent et de se dire comment tous ces gens-là ont été, d'une manière ou d'une autre, inspirés. Et dans le meilleur de ce qu'ils ont dit, on essaye de le réunir et de se dire tout ça, ça inspire aussi le monde d'aujourd'hui pour aimer mieux.
Thomas Geoffrey, vous n'êtes pas sans aller sur Internet, vous écoutez la radio, la télévision, les différents médias, et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe aussi des fake news, des mauvaises nouvelles, des rumeurs. L'Évangile, qui est aussi un aliment de votre foi, qui parle aussi d'amour, comme le titre de votre livre, qui parle de aime, prie et travail, pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes à croire, alors que dans cet Évangile, il est question de bonnes nouvelles?
Je pense qu'on se laisse très facilement entraîner dans notre propre défaut. On a souvent envie que la société valide tout ce qu'on fait nous-mêmes. Moi, j'ai plein de faiblesses. J'ai tendance à penser que mes faiblesses, j'ai pas envie de les transmettre aux autres. J'essaye d'avoir conscience de mes faiblesses. Par exemple, quand je suis interviewé par vous, j'essaye de faire le tri dans ma propre vie entre ce qui fait grandir les gens et ce qui les enferme. Et je sais, moi, que dans ma propre vie, il y a plein de choses qui m'enferment et que j'ai pas besoin qu'on les valide. C'est pas pour autant que j'arrive à m'en dépatouiller. Je reste esclave de mes envies. On est esclave d'argent, on est esclave de pouvoir, on est esclave de sexe, on est esclave de violence, on a nos propres esclavages, esclaves de drogue. Mais on peut avoir conscience que ces esclavages-là, justement, par définition, ne nous libèrent pas, ne font pas quelqu'un de nous meilleur. On a du mal à s'en sortir parce que ça nous fait plaisir sur le moment, mais on n'a pas forcément envie de le transmettre. Et donc, les gens ont besoin, par les fake news, de valider leurs propres esclavages pour y mettre un tampon. C'est accepté. C'est accepté par la société, donc c'est bon, je peux y aller. On a du mal à, parfois, écouter, effectivement, on appelle ça d'ailleurs une correction fraternelle. C'est pour nous faire grandir. C'est toujours pour nous aider à aimer mieux. C'est pas pour nous juger, on est tous faibles. Quand on lit l'histoire des saints, vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les grands personnages que tout le monde connaît, Moïse, le roi David, etc., c'était quand même des super losers. C'était des gars qui faisaient tout de travers. Et pourtant, ils ont transmis quelque chose.
Alors Thomas Geoffrey, ce livre dont vous êtes l'auteur qui vient de paraître en 2021, le titre M, prix et travail, paru aux éditions Salvator, pour quel lectorat?
Avec le verbe prier, il peut segmenter un peu mon lectorat. Il y a des gens qui ne vont pas oser sauter le pas. Et puis il y a quelques références religieuses dans mon livre. Et pour autant, j'ai vraiment essayé de l'écrire de manière très simple, très accessible, avec beaucoup d'exemples contemporains. Dans mon livre, vous avez peut-être des citations de Saint Augustin, mais vous avez aussi des citations de rappeurs américains, ou de chanteurs français, ou de personnalités qu'on peut connaître.
Par exemple, donnez-nous un exemple de citation.
J'ai cité dans mon livre un rappeur français qui s'appelle Nekfeu, qui dit une assez belle chose, qui dit que finalement l'important dans la vie, c'est pas le bif, c'est pas les bifetons, c'est pas l'argent, c'est la mif, c'est la famille. Finalement, autour de nous, les gens veulent faire des choses belles. Les rappeurs essayent, à leur manière, parfois, d'exprimer une réalité sociale et de dire, au fond du fond, des choses belles. L'important dans ta vie, c'est ta famille, c'est les gens qui t'entourent, c'est la beauté des choses. Et donc mon livre, il essaye d'être accessible, de dire la réalité du monde tel qu'il est, de donner quelques clés de lecture pour essayer soi-même de participer à une forme de transformation de cet univers-là, de ce monde-là. Tout le monde, tout un chacun.
Alors j'ose une question joker. Au terme de cet entretien pour Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence, votre livre est relié, et c'est ce qui fait l'unité de ces différentes pages. Qu'est-ce qui fait l'unité de votre vie ?
Qu'est-ce qu'il a relié ? C'est à la fois intime, parce que on a tous des unités différentes dans nos vies familiales différentes. Nous, ce qui nous réunit, c'est cette croyance fondamentale qu'on a une vocation et qu'elle est en partie spirituelle. Et donc, effectivement, c'est un ciment dans notre couple, parce que j'essaye de rendre ma femme plus sainte qu'elle ne l'est, et elle essaye de me rendre plus saint que je ne le suis, et j'essaye à ma manière, sans évidemment leur bourrer le mou, j'essaye de faire grandir mes enfants pour que demain ça soit des gars bien, des gens bien. Et ce qui les relie, c'est ça, ce qui nous relie, c'est ça, c'est cette bienveillance ouverte sur le monde, pas enfermée sur soi. On peut aimer sa petite copine ou sa femme, tous les deux les yeux dans les yeux. À un moment, quand on se marie, on dit quelque chose au monde, et c'est se dire, l'amour qu'on a l'un pour l'autre, on a envie de le transmettre. Et on a envie de le... Il se nourrit aussi du fait qu'il se transmet aux autres. C'est la différence entre l'eau et le feu. Quand on verse de l'eau, il n'y en a plus. Quand on fait passer une flamme de bougie en bougie, la première bougie garde la flamme et la flamme continue et se poursuit. Ben, l'amour, c'est un peu ça. Et donc, c'est une bienveillance, mais qui se transmet aux autres et qui se nourrit des autres.
Merci beaucoup pour ce temps accordé à cette émission Tendance Confidence, Thomas Geoffrey.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Podcast by Tendance Ouest.